Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons à la fin du troisième évangile que nous commentons à partir des Pères de l'Église, l'évangile de Saint-Luc. Nous en sommes au chapitre 24, le dernier chapitre de l'évangile selon Saint-Luc, sur le polycopier qui contient les chapitres 21, 22, 23 et 24, à la page 27. Nous en sommes au début donc du chapitre 24. Je veux continuer, terminer les commentaires à partir des Pères de l'Église sur le lin blanc, que la tradition nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été déposé dans le tombeau avec dans une pièce de lin, qui est devenue le linceul de Turin, sur lequel Dieu miraculeusement a laissé son empreinte. Forme négative, un négatif photographique. Je vous ai expliqué à la fin du dernier cours que le lin est donc le tissu liturgique qu'on utilise pour toutes les pièces de linge qui touchent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui peuvent le toucher, comme les nappes d'autel, les corporaux, les purificatoires et la palle. Alors, deuxième paragraphe de la page 27, c'est là où nous en sommes, ainsi de même que le Sauveur a souffert pour nous à la mort la véritable substance de sa nature terrestre, nous aussi, en souvenir de sa passion, nous étendons sur l'autel le lin blanc et pur que produit la terre après l'avoir préparé par un travail qui figure les divers genres de mortification. Donc le broyage du lin, moi je ne connais rien dans ce domaine, mais en principe je crois que le lin doit être très finement broyé, la graine de lin, avant d'être tissé. Il y a d'ailleurs très peu de tisseurs de lin. Quand j'ai récupéré cette pièce de lin pour faire mes nappes d'hôtel, la personne qui m'a vendu ce lin m'a dit qu'il n'y avait plus qu'une seule personne en France qui faisait encore du tissage de lin. C'est plus utilisé du tout dans l'église de Vatican II et c'est utilisé encore en décoration par les décorateurs modernes. Et donc le lin, par sa blancheur et par le travail qui est nécessaire pour obtenir ce tissu de lin, symbolise la mortification des sens. Et le blanc signifie la pureté. Donc la mortification et la pureté, les deux choses à la fois. Parce que le lin, encore une fois, la graine de lin doit être broyée très finement avant de pouvoir être tissée, avant d'en extraire les fibres qui vont permettre le tissage de la pièce de lin. Alors, ces femmes, nous dit la Sainte Écriture, sont arrivées avec des aromates. On s'est dit, ou dans ce texte-là, voilà, c'est au verset 1 du chapitre 24. Les premiers jours après le sabbat, de grand matin, les saintes femmes vinrent au sépulcre, apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus, tandis qu'elles étaient concernées de cela dans leur âme. Voici que deux hommes parurent auprès d'elles avec des vêtements resplendissants. Voilà, donc les anges qui lui apparaissent. Donc les aromates que ces saintes femmes apportent sont l'emblème de l'odeur des vertus et du parfum suave des prières avec lesquelles nous devons approcher de l'autel. Nous devons avoir cette bonne odeur du Christ, donc symbole de la vertu de charité. Le renversement de la pierre, donc la pierre avait été renversée, une grosse pierre de plusieurs tonnes sans doute qui fermait l'entrée du sépulcre avait été renversée par l'ange qui est venu au moment de la résurrection de notre Seigneur, le renversement de la pierre figure la révélation des mystères qui étaient cachés sous le voile de la lettre de la loi écrite sur les tables de pierre. Donc lorsque cette pierre est ôtée, on ne trouve plus dans le sépulcre le corps de Jésus-Christ qu'on y avait déposé après sa mort, mais on annonce et on prêche qu'il est plein de vie. Parce que si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette sorte. Donc le renversement de cette pierre, en quelque sorte, symbolise aussi le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dieu parlait avec des paraboles, et là, il va se révéler exactement avec toute sa divinité. Notre Seigneur, pendant la Passion, va cacher sa divinité, et bien, sa divinité va maintenant exploser pendant toutes les apparitions à ses disciples, aux saintes femmes et aux apôtres. De même, enfin que les anges se tenaient autour du corps du Seigneur déposé dans le sépulcre, ainsi devons-nous croire que les anges environnent le corps du Seigneur au moment de la consécration des divins mystères. Nous devons aussi, à l'exemple des saintes femmes, chaque fois que nous approchons des saints mystères, autant par respect pour les anges qui sont présents que par vénération pour l'oblation sainte, abaissons nos yeux vers la terre dans un profond sentiment d'humilité en nous rappelant que nous ne sommes que cendres et poussière. Donc il faut s'approcher du Saint-Sacrement avec cette humilité, mais en même temps cette confiance. Il ne faut pas prendre ces textes des pères, ne pas les déformer, si vous voulez. Le bon Dieu ne vous demande pas de ne jamais regarder l'autel, jamais regarder le tabernacle. Il est normal, quand vous faites votre génuflexion en rentrant dans la chapelle, que vous fassiez votre génuflexion en regardant le tabernacle. Si au cours de la messe, le prêtre élève la Sainte Hostie et le calice contenant le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement pour que les gens regardent. Si pendant la bénédiction des Saints Sacrements, le prêtre donne la bénédiction avec l'ostensoir, ostendere, ça veut dire montrer en latin. L'ostensoir, il faut donc regarder l'ostensoir en adorant notre Seigneur Jésus-Christ. Je trouve ça un petit peu dommage de voir parfois des fidèles qui, par excès de zèle, au moment de la consécration, lorsque le prêtre élève la Sainte Hostie, au lieu de regarder et d'adorer la Sainte Hostie en la regardant avec des yeux de la foi, eh bien, beaucoup de fidèles sont complètement prostrés et ne regardent même pas la Sainte Hostie, puis le calice qui est présenté aux fidèles. C'est la même chose pour le salut du Saint-Sacrement. Je trouve un peu dommage que pendant la bénédiction du salut du Saint-Sacrement, lorsque le prêtre qui a sur les épaules la chape et le voile huméral, il donne la bénédiction avec l'ostensoir qui contient le très Saint-Sacrement, on donne la bénédiction et puis on voit tout le monde qui a la tête sur le banc littéralement et qui n'ose pas regarder notre Seigneur. Ce n'est pas l'esprit d'église. Ostendere, ostensoir, ostendere, c'est montrer. Donc il faut regarder notre Seigneur dans ce cas-là. Ceci dit, il faut la vertu d'humilité, et cette vertu d'humilité elle est représentée surtout par les génuflexions que nous faisons, par le signe de croix également qui nous rappelle le mystère de la résurrection et de l'incarnation. Nous avançons, chapitre 24 de Saint-Luc, versets 13 à 24. Voici que ce même jour, deux disciples allaient dans un bourg nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de toutes ces choses qui s'étaient passées. Or, il arriva, pendant qu'ils parlaient et conféraient ensemble, que Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux. Mais une force empêchait leurs yeux de le reconnaître. Et il leur dit, « Quelles sont ces paroles que vous échangez en marchant, et pourquoi êtes-vous si tristes ?» Prenant la parole, l'un d'eux nommé Cléophas, Cléophas était le frère de Saint Joseph, lui dit, « Êtes-vous seul étranger dans Jérusalem, et ne savez-vous pas ce qui s'est passé ces jours-ci ? » Quoi ? Leur dit-il. Ils répondirent, touchant Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les princes des prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or, nous espérions que c'était lui qui rachèterait Israël. Et maintenant, après tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes qui sont des nôtres nous ont effrayés, étant allées avant le jour au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur ont apparu et ont affirmé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont aussi allés au sépulcre et ont trouvé des choses comme les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas trouvé. Et si c'est un point très important de la foi catholique, les apôtres, les disciples ont perdu la foi. Ils ont oublié que notre Seigneur Jésus-Christ avait annoncé sa résurrection plusieurs fois. Et comme ils ont perdu la foi, ils ne reconnaissent pas notre Seigneur. On le verra dans toutes les apparitions, les différentes apparitions, le Seigneur est apparu une douzaine de fois, au moins tel que c'est expliqué dans les évangiles, une douzaine de fois à ses apôtres, et on voit comment ils ne le reconnaissent pas. Sainte Marie-Madeleine apparaît, notre Seigneur lui apparaît tout à fait au début, et la Sainte Marie-Madeleine ne le reconnaît pas. Il a fallu que notre Seigneur l'appelle par son prénom, Maria, pour que les yeux de son âme s'ouvrent et qu'elle reconnaisse notre Seigneur. Ici, c'est pareil avec les deux disciples de Saint Cléophas et Saint Luc, vraisemblablement le deuxième disciple d'Emmaüs et Saint Luc. Eh bien, c'est pareil, ils ne reconnaissent pas notre Seigneur alors que ils le connaissaient très bien. On verra la même chose plus tard, dans d'autres évangiles aussi, au moment de la dernière multiplication des poissons, la pêche miraculeuse que notre Seigneur Jésus-Christ fait après sa résurrection, permet aux apôtres de faire, et les apôtres ne reconnaissent pas notre Seigneur qui est sur le rivage. Et c'est Saint Jean qui va reconnaître notre Seigneur en disant « c'est le Seigneur ». Saint Pierre ne le reconnaissait pas. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église, page 28. Sur ces passages, ces deux disciples qui marchaient en s'entretenant du Seigneur avaient déjà parcouru 6 000 de chemin parce qu'ils s'affligeaient qu'on eût mis à mort le sixième jour un homme innocent de tout crime. Ils avaient même parcouru le 7e mille parce qu'ils ne doutaient nullement que son corps n'eût reposé dans le sépulcre, mais n'avaient encore parcouru que la moitié du 8e parce qu'ils ne croyaient qu'imparfaitement à la gloire de la résurrection qui s'était déjà accomplie. Ils ne sont pas encore arrivés au but parce qu'ils ne croient pas encore suffisamment. Ils gardent un grand amour pour notre Seigneur, mais pour eux, c'est un amour de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour eux. Ils l'aimaient énormément et s'étaient très attachés à lui, mais il est mort, c'est fini. Texte de Saint Bède le Vénérable maintenant. Ils lui tiennent ce langage parce qu'ils le prenaient pour un étranger dont le visage aurait été inconnu. Ils ne reconnaissent pas. En effet, il était véritablement pour eux un étranger. La gloire de sa résurrection mettait entre lui et leur faible nature une distance immense. Ils demeuraient ainsi, aussi comme un étranger, par leur foi, qu'ils ne pouvaient croire à sa résurrection. Le fait qu'ils ne croient plus met une séparation entre eux et notre Seigneur, et du coup, ils ne reconnaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui se passe lorsqu'on perd la foi. Si, parce que je ne me confesse plus, parce que je ne communie plus, parce que je ne prie plus, parce que j'étudie plus mon catéchisme, je vais finir par perdre la foi, au moins en partie, parce que la foi est quand même chevillée au corps. La charité se perd très facilement, mais pas la foi ni l'espérance. Mais cependant, la foi et l'espérance, quand elles ne sont pas illuminées par la charité, sont des fois des espérances qu'on appelle des fois des espérances informes. Eh bien, si je reste trop de temps sans me préoccuper de nourrir mon âme, de nourrir mon intelligence, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir par perdre la foi complètement. Donc, et à ce moment-là, ça se traduit par le fait que je ne reconnais plus notre Seigneur Jésus-Christ. Et en général, le point clé, on reconnaît cela par une espèce de paresse spirituelle. On éprouve un dégoût à la prière, ce qu'on appelle l'assédie spirituelle. La paresse spirituelle, je n'aime plus prier, je n'aime plus aller me confesser. Au début, je me confessais avec joie, avec amour pour le bon Dieu. Maintenant, je vais confesser vraiment en traînant les pieds, je me communie en traînant les pieds, je n'aime plus prier. Avant, je disais mon rosaire tous les jours avec grande joie. Maintenant, j'ai un mal fou à dire trois « Je vous salue Marie ». Ça, c'est un signe d'assédie spirituelle. Et très souvent, c'est provoqué par le fait que je n'étudie plus, que je ne prie plus, et surtout, je n'utilise plus les sacrements. Souvent, une simple bonne confession réalimente la lampe à huile. Imaginez une lampe à huile avec une toute petite flamme parce qu'il n'y a presque plus d'huile. Il suffit de rajouter de l'huile dans le réceptacle de la lampe à huile et la flamme repart. Alors, autre commentaire des pères, ce Cléophas était le frère de Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge, père donc de Saint Jacques le Mineur et de Saint Jude, grand-père de Saint Jacques le Majeur, et de Saint Jean, qui étaient les fils de Salomé, fille de Cléophas. Saint Jacques le Majeur, c'est celui qui est enterré à Santiago, Saint Jacques de Compostelle. Saint Jacques le Mineur sera, si mes souvenirs sont exacts, le premier évêque de Jérusalem. Cléophas, ou Alphée, était donc le frère de Saint Joseph, l'époux de la Sainte Vierge, était aussi un des 70 disciples de notre Seigneur. Il fut mis à mort par les Juifs à cause du Christ dans le village d'Emmaüs, les martyrs. Il est donc martyr et sa mention est faite dans le martyrologe romain au 25 septembre, anniversaire du bienheureux Cléophas, disciple de Christ qui fut tué par les Juifs à cause de la confession de sa foi dans la maison même où il avait reçu le Seigneur. Alors, les pères discutent entre eux sur l'identité du deuxième pèlerin d'Emmaüs. Ils étaient deux. C'est le Le verset 13, voici que ce jour-là, deux d'entre eux allaient dans un bourg nommé Emmaüs. Ils étaient deux, mais l'opinion la plus vraisemblable, la plus commune parmi les pères, c'est que ce deuxième pèlerin d'Emmaüs était non pas un apôtre, mais un disciple, à savoir Saint-Luc. On ne sait pas. Nous avançons versets 25 à 35 du chapitre 24 de Saint-Jean. De Saint-Luc, pardon. Alors il leur dit, ô insensé, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât ainsi dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'il fut auprès du bourg où ils étaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, demeurez avec nous, car le soir arrive, et le jour est déjà sur son déclin, il entra avec eux. Il arriva pendant qu'il était à table avec eux qu'il prit du pain, le bénit, le rompit et leur présentait. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, est-ce que notre cœur n'était pas brûlant en nous lorsqu'il nous parlait sur le chemin, qu'il nous expliquait les Écritures? Et se levant en leur même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et en disant, le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. Il racontait même ce qui s'était passé en chemin et comment il l'avait reconnu lorsqu'il rompait le pain. Donc ce passage est très beau. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va leur faire un reproche de leur manque de foi. Ô insensé, verset 25, dont le cœur est lent à croire. Une autre traduction que j'aime bien dit, ô vous dont le cœur est froid, lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Notre Seigneur va leur faire le reproche de leur manque de foi. Vous voyez, donc il commence déjà à rajouter de l'huile dans la lampe à huile qui était en train de défaillir parce que la lumière défaillissait parce qu'il n'y a plus d'huile. Vous voyez, ils ne vont pas tout de suite le reconnaître. La tradition nous dit, c'est le texte d'ailleurs qui l'insinue ici, il prit du pain, le bénit, le rompit. Donc il rentre dans l'auberge, il fait d'abord mine de s'en aller et il le rattrape. Non, 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 restez avec nous, demeurez avec nous car le soir arrive. Et le jour est déjà sur son déclin. Donc notre Seigneur se fait prier, rentre avec eux, et là, la tradition nous dit qu'il a commencé les paroles de la Sainte Messe. Il prit du pain, le bénit, le rompit. Et est-ce qu'il a prononcé les paroles de la consécration? Ce n'est pas sûr, mais il a commencé au moins les paroles de la Sainte Messe. Et Dieu leur a à ce moment-là donné une grâce, la même grâce qu'il a donnée à Sainte Marie-Madeleine, et qui a fini par le reconnaître. De même, Dieu va donner à Saint-Luc et Saint-Cléophas la grâce de le reconnaître. Ils le reconnurent, mais il disparut. Donc voilà ce que disent les pères, en bas de la page 28. Le Sauveur ne laissa ce bandeau sur leurs yeux que jusqu'au moment où il a distribué le sacrement du pain pour nous faire comprendre que la communion à son corps sacré a la puissance d'écarter les obstacles qui nous empêchent de reconnaître Jésus-Christ. Il va encore nous apprendre que la participation au pain sacré nous ouvre les yeux pour que nous puissions le reconnaître, tant est grande et ineffable la vertu de la chair de Jésus-Christ. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a donné la communion aux disciples d'Emmaüs? On ne sait pas, ce n'est pas clair chez les pères de l'Église, le texte de l'Évangile n'est aussi pas très clair. Donc il est simplement dit qu'il prit du pain, le bénit, le rompit. Bon. Mais en tout cas ce qui est sûr, d'après les pères, c'est que c'était vraiment déjà la messe, la sainte messe qui était commencée ici. Le Seigneur n'a pas dit toute la messe, n'a pas célébré toute la sainte messe, mais a déjà prononcé les premières paroles et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait reconnaître. Il y a évidemment tout un symbole qui est magnifique, à savoir que lorsque je communie, la communion est comme une lumière, si vous voulez, qui va éclairer mon âme qui est dans les ténèbres à cause de ma froideur, à cause de mon indigence, à cause peut-être de mes péchés. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans mon âme et va ouvrir les volets pour que la lumière du jour puisse pénétrer. La lumière du jour, c'est la lumière de la grâce. Lorsque le Seigneur, page 29, marchant avec ses disciples qui ne le reconnaissent pas et leur expliquant les Écritures, fin d'aller ensuite d'aller plus loin, il veut nous enseigner encore qu'en pratiquant les devoirs de l'hospitalité, les hommes peuvent arriver à le connaître et qu'il sera toujours avec ceux qui exerceront l'hospitalité à l'égard de ses serviteurs, lors même qu'il ne sera plus éloigné des hommes en remontant dans les cieux. En pratiquant l'hospitalité, on reçoit parfois notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a des tas de miracles qui ont été accomplis au cours de l'histoire de l'Église. On voit très bien des pauvres qui ont été reçus par des catholiques. Et en fait, ce pauvre, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on reçoit un pauvre, non, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qu'on reçoit. Rappelez-vous, Saint Martin, encore catéchumène, qui partage son manteau de soldat en deux pour en donner la moitié à un pauvre dans la ville d'Amiens. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui apparaît le lendemain dans un songe pendant son sommeil, le sommeil de du Saint, pour lui dire, c'est mon serviteur qui m'a revêtu, moi, le Christ, de ce manteau. Donc Saint Martin avait donné le manteau pour revêtir un pauvre, mais en fait, en donnant ce manteau à un pauvre, Saint Martin a revêtu le Christ lui-même. Celui donc qui, après avoir été instruit des choses de la foi, communique tous ses biens à celui qui l'a instruit, est sûr de retenir Jésus-Christ, de l'empêcher de s'éloigner de lui. Donc il faut pratiquer la vertu de charité, encore une fois, avec prudence, avec sagesse. Le bon Dieu, je vous l'ai déjà dit, ne vous demande pas, ne demande absolument pas d'accepter dans votre maison n'importe qui sans aucune prudence. Hein. Si un malheureux vous demande de la nourriture à la porte de votre maison, vous pouvez lui en donner si vous en avez. C'est évident, moi je le fais régulièrement aussi quand on m'en demande. Mais ça ne vous demande pas, ce serait imprudent de recevoir cette personne inconnue chez vous alors que vous ne le connaissez pas, surtout si vous avez femme et enfant. Ce serait de la folie, même très imprudent. Vous voyez, donc il faut encore une fois avoir du bon sens. Certes, on a des tas d'exemples de saints qui recevaient un peu n'importe qui chez eux, mais au Moyen-Âge, on n'est plus au Moyen-Âge, on est en République française avec des bandits partout. Hein. Donc il est évident qu'aujourd'hui, c'est une imprudence grave pour le pays de recevoir tous ces migrants qui sont pratiquement tous musulmans, qui sont en train de mettre le pays à feu et à sang. Bon, c'est une imprudence grave de la part de notre gouvernement, c'est absolument évident, c'est du bon sens élémentaire. La véritable charité commence par soi-même. Donc la véritable charité nous demande de commencer par aider les Français qui en ont bien besoin, parce que Dieu sait s'ils sont nombreux, ceux qui ont bien du mal à finir les fins de mois. Aider les Français avant d'aider des étrangers. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ça serait une imprudence. Moi, j'ai eu un cas, je me rappelle un cas dans la fraternité quand j'y étais, un prêtre comme ça qui avait imprudemment reçu un migrant comme ça, ou un pauvre qu'il avait rencontré dans la rue, et il l'avait pris chez lui, et puis il a fini par le recevoir chez lui pendant quelques jours, et le migrant ou le pauvre a été très malin, a commencé par gagner l'affection et la confiance de ce prêtre, et puis il est parti au bout de 2 jours au milieu de la nuit, après avoir volé tout ce qu'il a pu voler. Bon, c'était une imprudence de la part de ce prêtre, c'est absolument évident. Donc, celui donc qui a. Je continue les commentaires des pères. En effet, les disciples d'Emmaüs avaient reçu l'enseignement de la parole lorsque le Sauveur leur expliquait les Écritures. Et c'est parce qu'ils ont pratiqué à son égard l'hospitalité qu'ils ont mérité de connaître lors de la fraction du pain celui qu'ils n'avaient pas reconnu lorsqu'il leur expliquait les Écritures. Donc le fait d'assister à la Sainte Messe ouvre déjà l'âme pour que notre cécité spirituelle disparaisse. Parfois la meilleure façon de retrouver la foi, de retrouver la charité, de retrouver l'usage de nos yeux spirituels, des yeux de notre âme, des oreilles de notre âme, de la langue de notre âme, c'est tout simplement d'assister à la Messe, après une bonne confession. Parfois des gens qui viennent me voir et qui me disent, Monsieur l'abbé, j'ai plus envie de prier, je suis en train de perdre la foi, je suis complètement découragé. La première question que je vais poser, c'est toujours la même. De quand date votre dernière bonne confession? Oh, Monsieur l'abbé, ça fait des années que je ne me confesse plus. Ben évidemment, c'est pas étonnant. Commencez par vous confesser et après les choses vont pouvoir, avec la grâce du bon Dieu, vont pouvoir s'arranger. J'ai la même réaction lorsque un ménage vient me voir en me disant, Monsieur l'abbé, ça ne va plus du tout, on se bagarre tout le temps, on se dispute tout le temps, on pense à se séparer, c'est une catastrophe parce que nous avons des enfants. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est la première question également que je vais poser. De quand date votre dernière bonne confession? Et souvent, ils me disent depuis des années.
Et je leur pose une autre question, mais avant de vous marier, vous êtes jeune marié, par exemple, vous commencez de penser déjà à une séparation, et quand vous êtes, d'abord, est-ce que vous êtes marié religieusement? Deuxième question, est-ce qu'avant votre mariage, vous avez fait une bonne confession en général? Parce que le sacrement de mariage, c'est un sacrement des vivants. Pour pouvoir recevoir les grâces du sacrement de mariage, vous êtes en état de grâce. Si vous êtes en état de péché mortel, la porte de votre âme est enfermée, les grâces du mariage ne peuvent pas rester. Donc il faut faire une bonne confession. Je les ai à préparer une bonne confession générale, et à ce moment-là, il se passe ce qu'on appelle vraisemblablement la reviviscence du sacrement. Ils étaient déjà mariés avant, mais faisant une bonne confession, qui peut-être, dans bien des cas, j'ai eu des cas comme ça pendant les retraites, la première bonne confession depuis le mariage, ils vont enlever l'obstacle, l'obex, et du coup, recevoir les grâces du sacrement de mariage. Donc la première des choses à faire, c'est de pousser les gens à faire une bonne confession. Notre Seigneur, page 29, apparaît donc à Pierre qui méritait d'être le premier témoin de la résurrection parce qu'il avait confessé le premier qu'il était le Christ. En fait, il ne fut pas le premier, premier homme peut-être, mais pas le premier de la résurrection. La première personne qui a vu notre Seigneur après la résurrection, vraisemblablement, c'est la Sainte Vierge. Bien qu'il n'y ait pas un mot dans l'Évangile. Cependant, tous les pères qui en ont parlé reconnaissent que c'est la Sainte Vierge qui a eu la visite de notre Seigneur la première. Vous ne pouvez quand même pas imaginer notre Seigneur Jésus-Christ apparaître à Sainte Marie-Madeleine, apparaître aux Saintes Femmes, apparaître aux apôtres, apparaître aux disciples et pas apparaître à sa mère. Sa mère qui était la seule qui avait conservé la foi, donc il est absolument évident, d'ailleurs c'est clairement dans les exercices de Saint-Ignace, une dernière méditation de Saint-Ignace, dans les exercices de Saint-Ignace, il demande à ce qu'on médite justement sur l'apparition à sa mère. Voilà le texte de Saint-Ignace. La dernière méditation, méditation sur la résurrection, une des dernières méditations de la retraite, il dit qu'il faut, on va méditer sur Jésus et rendu le dernier soupir sur la croix, son corps resta séparé de son âme, sans cesser d'être uni à la divinité, comment son âme bienheureuse, unie aussi à la divinité, descendit aux enfers, délivra les âmes des justes et revint au sépulcre, comment enfin le Sauveur étant ressuscité, apparut en corps et en âme à sa mère bénie. Je me représenterai donc la disposition du Saint-Sépulcre et la maison se trouve Notre-Dame, considérant en particulier les appartements qui la composent, et spécialement la chambre et l'oratoire de la Mère de Dieu, la Mère du Sauveur. Donc, pratiquement tous les saints qui en ont parlé reconnaissent que notre Seigneur est certainement d'abord apparu à la Très Sainte Vierge Marie, même s'il n'y en a pas un mot dans l'Évangile, il n'y a pas tout dans l'Évangile. Donc, il apparaît aussi à Saint-Pierre. Il s'est dit au verset 34 du chapitre 24 de Saint-Luc, le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. Bon. Donc Pierre a vu notre Seigneur. Il apparaît donc à Pierre, mais qui méritait d'être le premier témoin, j'expliquais qu'il n'est pas vraiment le premier témoin, de la résurrection. Et il lui apparut encore le premier parce que Pierre l'avait renié, qu'il voulait ainsi le consoler, le préserver du désespoir. Bon. Saint-Pierre deviendra le premier pape. Il n'est pas encore pape à l'époque, hein, pas encore. Il deviendra pape après la multiplication des poissons, après la pêche miraculeuse, la dernière pêche miraculeuse, lorsque notre Seigneur va prendre Saint-Pierre à part, alors que les autres disciples ramènent le filet plein de poissons, pêchés miraculeusement, et Saint-Pierre va s'éloigner avec notre Seigneur, et trois fois notre Seigneur va faire un acte de charité, un acte d'amour, obliger Saint-Pierre à prononcer un acte d'amour pour rattraper sa triple trahison. Simon, fils de Jonas, est-ce que vous m'aimez plus que les autres? Et Saint-Pierre va répondre, Seigneur, vous savez que je vous aime trois fois. Alors, la plupart des pères, avec cette phrase, il prit du pain, au verset 30, il prit du pain et le bénit et le rompit, la plupart des pères pensent donc que le Christ consacra la Sainte Eucharistie. Il n'y a pas une unanimité des pères. Certains disent qu'il a simplement commencé la Sainte Messe, d'autres pensent, vous voyez ici, le texte ici que j'ai trouvé, dit qu'il a consacré la Sainte Eucharistie. Pourquoi? Parce que les saints Matthieu et saint Marc utilisent les mêmes paroles concernant l'institution de la Sainte Eucharistie. Cette bénédiction ne semble pas avoir été donnée au commencement du repas, car le Christ ne disparut pas de leur vie après avoir mangé avec eux, pour qu'ils ne pensent pas qu'ils ne voyaient qu'un fantôme. Elle fut donnée au milieu, plutôt à la fin du repas. Ce n'était pas la bénédicité, mais la prière solennelle et eucharistique. Donc, peut-être que Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, a prononcer les paroles de la Sainte Eucharistie, on ne sait pas. Ce fait devient clair quand on voit les effets de cette bénédiction du pain sur les disciples. Donc, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors, est-ce qu'ils le reconnurent parce qu'il a prononcé les paroles de la Sainte Eucharistie? Ce n'est pas clair, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Dieu, à ce moment-là, leur a donné la grâce pour qu'ils ouvrirent leurs yeux, ouvrissent les yeux de leur âme et reconnurent, puissent reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, d'après certains pères, ici la majorité des pères, il semblerait que notre Seigneur ne fit pas que consacrer la Sainte Eucharistie, mais qu'il leur donna la Sainte Communion de ses propres mains. Encore une fois, c'est discuté entre les pères. Ce qui fut donné par ses mains ne fut pas seulement sanctifié, mais devint la cause de la sainteté chez les deux disciples. Évidemment, cette communion a illuminé leur cœur, comme un cœur qui était froid. Rappelez-vous le terme « eau insensée », vous dont le cœur est lent à croire, vous dont le cœur est froid à croire. Eh bien, la Sainte Communion va leur donner cette force spirituelle comme une charité bien vive. Le Seigneur se fit reconnaître à la consécration, et c'est ainsi qu'il se fait reconnaître aussi pour nous, par nous, en se révélant de la même manière, même si nous ne le voyons pas sous une forme corporelle. Il nous a donné sa chair pour qu'elle devienne notre nourriture. Saint Augustin qui parle. Donc la consécration est un moyen de réchauffer notre âme qui est refroidie par le péché, et par les manques, les péchés contre l'espérance surtout. Ce sont les péchés contre l'espérance qui provoquent le plus de dégâts au niveau de la chaleur de la charité. Les péchés mortels détruisent complètement la charité. Les péchés d'espérance ne sont pas toujours des péchés mortels, mais sont des péchés très dangereux parce qu'ils refroidissent l'âme. Donc ce passage de la Sainte Écriture, c'est intéressant, une remarque intéressante des pères, est une preuve de l'usage de la Sainte Communion sous une seule espèce, car il est clair que le Christ ne consacra ni donna la coupe aux disciples. Bon. Vous savez que pendant la Sainte Messe, il y a deux consécrations, consécration du corps et consécration du sang, du Christ. Pourquoi cette double consécration? J'ai déjà expliqué, je réexplique rapidement. Tout simplement parce que la messe est un sacrifice. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut qu'il y ait séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut plus y avoir de séparation entre le corps et le sang de façon physique chez notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est maintenant au ciel avec un corps glorieux. Donc la double consécration va permettre une séparation sacramentelle. Il y a sacramentalement une séparation sacramentelle mais réelle, entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le corps dans l'hostie consacrée, le sang dans l'hostie dans le vin consacré. Cependant, c'est l'enseignement de saint Thomas, lorsque je donne la Sainte Communion aux fidèles avec une hostie consacrée, par la force du Saint-Sacrement, par la messe, la force de la messe, des paroles de la consécration, la présence réelle de notre Seigneur, le corps est là, mais par concomitance, dit saint Thomas d'Aquin, avec le corps, il y a aussi, bien sûr, l'âme, le sang et la divinité. De la même façon, lorsque je communie au précieux sang, il n'y a pas simplement le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi son corps, son âme et sa divinité par concomitance du sacrement. Après qu'il eut consacré son corps pour le leur donner, ils le reconnurent et disparut de leur vue. Ainsi pensent saint Augustin, saint Jean Chrysostome, saint Bède et les autres. Il n'y a pas unité parmi les pères sur ce sujet. Donc, anthropologiquement, c'est-à-dire moralement apparemment, c'est le sens moral, par l'exercice de l'hospitalité, nous obtenons la connaissance du Christ, que celui qui veut comprendre ce qu'il a entendu mette en pratique ce qu'il a compris. Donc, il faut s'approcher des sacrements, surtout quand notre foi devient faible. Si notre foi devient trop faible, il faut s'approcher des Saint-Sacrement, sacrement de l'autel. Donc, souvent, ça commence par une bonne confession. Bonne confession d'abord, c'est toujours ce que je conseille aux gens qui ont des difficultés dans un mariage, des difficultés dans leur foi personnelle, qui commencent à se décourager. Une bonne confession, peut-être dans certains cas une confession générale, au moins d'un certain temps de la vie passée, puis la communion. Et il faut rajouter le rosaire, le chapelet au moins, pour retrouver l'amour de la prière. C'est la Sainte Communion qui donne l'amour de la prière. Le Seigneur ne fut pas reconnu par les disciples alors qu'il leur parlait, mais quand il se fit reconnaître alors qu'il leur donnait la Sainte Eucharistie. Donc la Sainte Eucharistie ouvre les yeux de notre âme, enlève en quelque sorte les écailles qui empêchaient l'âme de reconnaître notre Seigneur. Un peu comme saint Paul, après sa conversion, après sa chute de cheval sur le chemin de Damas, qui est aveugle. Et donc il va falloir qu'il reçoive le baptême pour retrouver l'usage de ses yeux. Et il va retrouver l'usage de ses yeux, même avant le baptême, et va demander le baptême. À ce moment-là, il va devenir l'apôtre saint Paul. Les raisons pour lesquelles le Christ disparut devant eux sont les suivantes. Voilà ce que disent les pères. D'abord, pour leur montrer qu'il était vraiment ressuscité des morts et que son corps était devenu glorieux, car c'est le propre d'un corps glorieux d'apparaître ou de disparaître à souhait. Le don d'agilité, il y a le don de subtilité, la clarté, etc. Ce qu'on appelle les privilèges des corps glorieux. qui feront qu'un corps glorieux peut passer après les, à travers les murs. On va le voir d'ailleurs dans les apparitions de notre Seigneur, dans d'autres évangiles, comment Dieu rentre, notre Seigneur Jésus-Christ rentre pour visiter ses apôtres, par exemple, qui sont tous réunis dans une pièce à Jérusalem, il passe à travers les murs parce qu'il a un corps glorieux. C'est le propre d'un corps glorieux d'apparaître, disparaître à souhait. Cette disparition soudaine fut une nouvelle preuve de la vérité de sa résurrection. Donc il apparaît avec un corps, avec son corps, pour bien leur montrer qu'il est vraiment ressuscité. Deuxièmement, pour leur enseigner que, par la résurrection, il était passé d'une vie mortelle à un état de gloire, donc une faute d'orthographe, qu'il faut que je corrige, une faute de frappe, un état de gloire, et n'avait plus maintenant de conversation familière avec les hommes, mais avec les anges. Donc, autre raison pour qu'ils comprennent comment avoir cette révérence pour le Christ et pour ceux qui sont déjà entrés dans le paradis. Il faut rendre au Seigneur, glorifier le culte de l'âtrie, le culte d'adoration, ce qu'on appelle la fin latretique de la prière, la fin d'adoration. Mais au sein, le culte de Duly. Donc, Duly pour les saints, hyper Duly pour notre Sainte Vierge Marie, l'âtrie pour notre Seigneur. L'âtrie, c'est le culte d'adoration. L'adoration n'est due qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas le droit d'adorer la Sainte Vierge. On vénère notre Sainte Vierge Marie, on vénère les saints et leurs reliques, mais on adore notre Seigneur Jésus-Christ seul. Notre Seigneur Jésus-Christ disparut de devant les disciples d'Emmaüs aussi pour que ces deux disciples retournent voir les apôtres, toujours dans l'angoisse à cause de la mort de Christ, et puissent les réconforter par la bonne nouvelle de sa résurrection, de son apparition. Donc il leur donne en quelque sorte la preuve de sa résurrection. De même qu'il va accepter d'être touché par les apôtres, demander même à saint Thomas de venir mettre son doigt dans le pied des pieds, des mains et du côté pour prouver sa résurrection. Passons à la page 30. Bon, je pense que je vais pouvoir terminer l'évangile selon saint Luc avec cette conférence. Page 30, saint Luc chapitre 24, versets 36 à 40. Or, pendant qu'ils parlaient ainsi, Jésus parut au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. C'est moi, ne craignez point. » Mais troublés et épouvantés, ils croyaient voir un esprit. Il leur dit « Pourquoi vous troublez-vous et pourquoi de telles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et après avoir dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Voyez, touchez, voyez. Notre Seigneur se fait toucher par ses disciples parce qu'il voit la faiblesse de leur foi. Par contre, il ne va pas faire la même chose avec Sainte Marie-Madeleine, c'est bizarre. Avec Sainte Marie-Madeleine, qui veut se précipiter aux pieds de notre Seigneur, il lui met ses deux doigts sur le crâne. Ne me touche pas. Voyez, parce que Sainte Marie-Madeleine avait peut-être une foi plus forte à ce moment-là que les apôtres, un amour plus grand. Et donc, notre Seigneur se laisse prouver. Touché par ses apôtres, mais pas par sainte Marie-Madeleine, parce qu'il a compris que les apôtres avaient plus besoin d'être secourus encore que sainte Marie-Madeleine. Alors, si on prend le mot Galilée, ça se passe en Galilée, dans le sens des révélations, nous devons entendre que le Sauveur ne se révélera plus sous la forme d'esclave, mais dans l'éclat qui convient au Fils de Dieu, égal à son Père, comme il l'a promis à ses élus. Cette révélation sera pour nous une véritable Galilée, alors que nous le verrons tel qu'il est. Ce sera aussi pour notre bienheureuse transmigration de ce monde dans cette vie éternelle qui n'a point quitté en venant parmi nous, où il nous précède sans nous abandonner. Notre Seigneur qui apparaît avec un corps glorieux nous annonce la gloire du paradis. Au paradis, notre Seigneur Jésus-Christ aura aussi son corps glorieux. Les âmes qui montent au paradis après leur temps de purgatoire, eh bien, voient déjà l'humanité sainte de notre Seigneur Jésus-Christ, de même qu'ils vont voir l'humanité sainte de la très sainte Vierge Marie, puisque le corps de notre Sainte Vierge Marie et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ sont au ciel, dès maintenant. Donc nous verrons tout cela au ciel, avant même d'avoir notre propre corps, qui sera réuni à notre âme, puisque la réunion des corps et des âmes, tant en enfer malheureusement que pour ceux qui y sont hélas, que pour les âmes qui sont au ciel, cette réunion entre le corps et l'âme n'aura lieu qu'à la fin des temps, au moment de la résurrection générale. C'est donc par un dessein plein de miséricorde que celui qui a triomphé de la mort n'a point voulu détruire les signes que la mort avait imprimés sur son corps. Donc il garde les marque de sa passion, les plaies surtout aux mains, aux côtés, aux pieds, comme des joyaux, des perles extraordinaires à sa couronne. D'abord pour rendre plus ferme dans ses disciples la foi en sa résurrection. Il montre qu'il est la même personne. S'il n'avait pas eu les plaies aux mains, aux pieds et aux côtés, les apôtres auraient pu avoir un doute en disant « Est-ce que c'est la même personne qui a vraiment été crucifiée ?» Deuxièmement, afin qu'en intercédant pour nous près de son Père, il pût lui montrer toujours le genre de mort qu'il avait souffert pour le salut des hommes. Troisièmement, pour rappeler à ceux qu'il a rachetés par sa mort, quel secours miséricordieux il leur a ménagé en leur mettant sous les yeux les signes visibles de sa mort. Et quatrièmement, enfin, pour faire comprendre aux impies au jour du jugement la justice de leur condamnation. Vous voyez donc, notre Seigneur va apparaître dans la gloire, dans sa gloire, pour le réconfort des bons et pour la panique des mauvais. Hein? Venez les bénis de mon Père. Éloignez-vous de moi, maudit. Ce n'est pas les mêmes paroles aux bons et aux mauvais. Les bons sont accueillis avec bonté, les mauvais sont rejetés. On le voit très bien avec les apparitions de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître aux apôtres, va apparaître aux disciples, va apparaître aux saintes femmes, va apparaître à sa sainte mère. Mais est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître à Pilate? Croyez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître aux soldats romains? Croyez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ va apparaître à Caïphe ou à Hérode? Non! Pourtant, s'il était apparu à Pilate ou à Hérode ou à Caïphe, peut-être qu'il aurait pu les convertir. Non, parce qu'il sait très bien, il est Dieu, il sait tout, il savait que ces gens-là ne cherchaient pas Dieu. Dieu ne détruit pas notre libre arbitre. Vous voyez, donc, ces apparitions sont des preuves magnifiques de la résurrection du Christ. Alors, comment le corps glorieux du Christ peut-il en même temps être matériel et immatériel ? C'est un mystère. Les corps glorieux ont les privilèges de la subtilité, agilité, impassibilité, clarté. Bon, subtilité, dès qu'ils peuvent passer à travers les murs. Agilité, ils se déplacent instantanément d'un point à l'autre du globe. Impassibilité, plus de souffrance. Et clarté, une grande lumière jaillissait de ces corps. On voit très bien dans toutes les apparitions des anges, ou de la très sainte Vierge Marie qui apparaît sur terre, par exemple à Fatima ou à Lourdes, à chaque fois les voyants disent les mêmes paroles, elle était rayonnante de lumière. Un peu comme la transfiguration de notre Seigneur. Notre Seigneur Vierge Marie est transfigurée parce qu'elle vient du ciel, et au ciel il y a la transfiguration permanente de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ? Donc nous aurons nous aussi, après notre mort, quand nous serons au ciel, ces privilèges de subtilité, d'agilité, d'impassibilité, de clarté. Au contraire, les démons, qui peuvent avoir dans certains cas la possibilité de subtilité, d'agilité, n'ont pas évidemment la clarté. Hein. Dès qu'on voit des apparitions démoniaques, tout de suite les témoins parlent de noirceur, de fumée, d'obscurité. Hein. On voit très bien les signes par lesquels on peut reconnaître le démon. Donc c'est d'abord la tristesse. L'obscurité, également l'aveuglement, donc je répète les points par lesquels on peut reconnaître la présence du démon, la tristesse, l'aveuglement, la confusion et l'attraction vers les choses laides. Au contraire, les points par lesquels on peut reconnaître que les gens viennent du ciel, c'est la paix, la joie, la lumière et la beauté. Si le démon nous apparaît, j'espère que non, mais s'il apparaît, il laisse du trouble. Au contraire, quand notre Seigneur et la Sainte Vierge apparaissent à des voyants véritables, eh bien, la première chose, c'est la paix, la joie. On voit la paix et la joie, c'est les enfants de Fatima, la paix et la joie provoquée par l'apparition entre Sainte Vierge Marie et Sainte Bernadette Soubirous, par exemple. Vous voyez ? Donc, il faut réaliser et méditer sur ces qualités extraordinaires qu'on va voir chez notre Seigneur Jésus-Christ. La subtilité leur permet non seulement d'offrir aucune résistance à un autre corps, c'est pour ça qu'ils peuvent parler et passer à travers les murs, mais même de les pénétrer. Ils peuvent aussi disparaître à volonté de la vue des mortels et ne pas se faire sentir leur présence par le toucher. Ils peuvent utiliser comme et quand ils le veulent ces propriétés. Oui. Attention, ce sont des individus réels, ce ne sont pas des fantômes. Le démon apparaît comme un fantôme parce que c'est le singe de Dieu. Ici, notre Seigneur apparaît réellement avec son propre corps, son propre sang, son propre âme et sa propre divinité. C'est pour ça qu'il peut être touché par les apôtres. Voyez, touchez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Il leur montra ses pieds, ses mains. Il va demander plus tard à Saint Thomas de mettre son doigt dans les plaies sacrées de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut également se poser la question de savoir si le fait que les apôtres aient pu toucher le Christ, le voir s'asseoir et manger avec eux, est une preuve suffisante de sa résurrection. Il faut répondre, disent les pères, en disant que ces preuves ne sont pas absolument physiquement certaines, car les anges qui apparaissent sous forme corporelle furent touchés par Abraham, Lot et d'autres. Mais ces preuves sont certaines dans un sens moral, autant que cela est possible pour un homme. On va voir Tobie faire semblant de manger, pardon, Saint Raphaël, l'ange Raphaël, manger avec Tobie. Donc, on voit comment, dans des tas de cas d'apparition d'anges, Abraham a pu parler physiquement avec les anges, voir physiquement et toucher physiquement les anges qui lui sont apparus. Le Christ voulut rester avec les apôtres, se manifester lui-même après sa résurrection à leur oui, leur vue, leur toucher, et ses sens corporels sont tenus par les hommes pour ne pas tromper. Donc, de la même façon, par la Sainte Communion, notre Seigneur Jésus-Christ va toucher notre oui spirituel, notre vue spirituelle, notre toucher spirituel, et nous sortir de la paralysie, de l'assédie spirituelle dans laquelle nous étions auparavant. De même qu'il y a des sens pour le corps, il y a des sens pour l'âme. L'âme a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un nez pour sentir la bonne odeur du Christ, et des oreilles pour entendre, etc. C'est pour cela que quelqu'un qui retrouve la foi va sortir de cette paralysie. On voit très bien les miracles chez notre Seigneur provoqués par notre Seigneur Jésus-Christ au temps de sa vie publique sur la terre, pendant sa vie publique, ses 3 ans de vie publique, comment il va guérir justement les aveugles, les sourds, les muets, les paralytiques. Mais cette cécité, cette surdité, cette paralysie représente autre chose. Et notre Seigneur le fait bien comprendre en disant à ces paralytiques: votre foi vous a sauvé, vos péchés sont pardonnés. Il monte au niveau spirituel. Cette paralysie du corps représente une paralysie spirituelle bien plus grave. Cette cécité par laquelle vous ne voyez pas avec les yeux de votre corps manifeste une cécité de votre âme. Vous n'entendez plus avec vos oreilles. Je vous touche les oreilles pour que votre âme puisse entendre les sons glorieux de la gloire de Dieu. Votre nez ne sent plus rien sur votre corps physique. Je vous donne la possibilité de sentir la bonne odeur du Christ. Alors continuons un petit peu ces textes magnifiques des pères de l'Église. Donc le Christ voulut rester avec les apôtres, se manifester lui-même après sa résurrection, leur oui, leur vue, leur toucher. J'ai expliqué. La providence divine voulait utiliser tous ces signes et le Christ ne pouvait tromper les hommes sans perdre toute crédibilité, surtout sur le point de savoir s'il était véritablement ressuscité des morts. C'est pour ça qu'il va obliger, par exemple, Saint Thomas, qui doutait, de mettre son doigt dans ses plaies. Tous ces signes, en conjonction avec les miracles du Christ et les prophéties de sa venue, rendaient crédible et certain le fait qu'il était en vérité ressuscité. Le Christ, en bas de la page 30, a voulu que ces 5 marques des blessures de sa passion, les 2 marques des mains, 2 marques des pieds et la blessure du côté, restent gravées sur son corps glorifié comme des trophées de sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Et on voit ces mêmes trophées sur les membres des gens qui ont des véritables, par exemple, Padre Pio, Saint François d'Assise aussi, avec ces stigmates qui étaient la marque physique dans leur corps des signes de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire les marques des blessures des pieds, des mains, du côté. On voit très bien ça chez les stigmates de Saint François. Il avait une souffrance terrible d'ailleurs. Imaginez marcher avec les pieds percés, tenir des choses dans ses doigts avec des mains percées, ou des poignets percés. Et le voir respirer avec une blessure au côté qui devait être bien, bien douloureuse. Donc, le Christ a voulu que ces 5 marques des blessures de la Passion restent gravées sur son corps glorifié comme des trophées de sa victoire sur le péché, la mort et l'enfer. Par sa mort sur la croix, à 3 heures de l'après-midi, au moment précis où le démon pensait avoir remporté la victoire, c'est la réouverture des portes du ciel et Satan renvoyé en enfer. Celui qui détruisit le royaume de la mort ne voulut pas effacer les signes de sa mort, dit saint Ambroise. De la même façon, les martyrs garderont au ciel, disent les pères, les traces de leurs blessures, comme des signes glorieux de leur victoire. Ces signes augmenteront leur dignité et donneront à leur corps une beauté certaine à cause de leur mérite. Ces marques ne seront jamais considérées comme une laideur, mais comme une gloire. Donc les saints qui ont souffert physiquement, les martyrs épouvantables, garderont sur leur corps glorieux les marques de leur martyr. Passons à la page 31. Je vais terminer ces dernières feuilles parce que ce sera plus simple. Je vais peut-être vous garder un peu plus longtemps qu'une heure pour ce cours, je m'excuse. Je voudrais terminer, c'est plus simple pour moi et pour vous aussi, que je termine aujourd'hui donc tous les commentaires de Saint-Luc. Et ensuite, la prochaine fois, si le bon Dieu veut, je commencerai l'évangile de Saint-Jean, qui est évidemment un gros morceau. Parce qu'il y a les trois synoptiques, Saint-Matthieu, Saint-Marc et Saint-Luc, qui se ressemblent, et puis il y a dans l'évangile complètement différent, l'évangile de Saint-Jean. Page 31, versets 41 à 44, du chapitre 24 de Saint-Luc. Et comme il ne croyait point encore et qu'il s'étonnait, transporté de joie, il dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et après qu'il en eut mangé devant eux, prenant les restes, il le leur donna. Et il leur dit « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Voyez, on voit que notre Seigneur leur donne une preuve supplémentaire. Il s'est déjà laissé toucher. Touchez et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Il leur montre ses mains, ses pieds, se fait toucher. Ça ne suffit pas. Il sent que la foi des apôtres n'est pas encore complètement revenue. Alors il demande à manger. Avez-vous quelque chose à manger? Et devant eux, il va manger, alors qu'il est encore glorieux, un morceau de poisson rôti, un rayon de miel. Et puis en plus, il leur donne. Pour bien leur montrer, j'ai un corps glorieux mais réel. Voilà les commentaires des pères. La loi prescrivait qu'on mangeât la Pâque avec des laitues amères parce que c'était encore le temps de l'amertume. Mais après la résurrection, cette amertume est adoucie par un rayon de miel. Donc, à cause de cela, notre Seigneur ne propose pas, ne demande pas à avoir des laitues amères avant de manger, mais un rayon de miel, symbole de la douceur de la résurrection de notre Seigneur. Ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti, un rayon de miel. Dans le sens figuré, ce poisson grillé représente Jésus-Christ dans sa passion. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que le mot « poisson », « ictus » en grec, donc représente, était le symbole qu'utilisaient dans les temps des persécutions les premiers chrétiens qui gravaient sur la pierre, ou peignaient sur leur mur, le poisson qui représentait le signe du chrétien. Ce sont les initiales en grec de Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Ce poisson grillé représentait donc Jésus-Christ dans sa passion. Il a digné en effet vivre caché dans les eaux du genre humain. Il s'est laissé prendre dans les filets de notre mort. Il a été comme brûlé par la tribulation au temps de sa passion, mais il est devenu pour nous rayon de miel après sa résurrection. Donc le fait que le poisson soit rôti, le fait que ce poisson soit rôti est un symbole des souffrances de la passion. Vous voyez ? De même que les graines de lin qui sont triturées représentent les mortifications de la chair. De la même façon, le fait que le poisson soit rôti représente les souffrances de la passion. Et le rayon de miel, au contraire, est le symbole de sa résurrection. Rayon de miel de la résurrection, poisson rôti de la passion. Ce rayon de miel aussi représente, d'après les pères, la double nature de sa personne, la personne divine de notre Seigneur, une deuxième personne de la Sainte Trinité. Car le rayon de miel repose dans la cire, et ce miel dans la cire, c'est la divinité dans l'humanité. Donc, le miel est à la divinité ce que la cire est à l'humanité. L'humanité qui cache la divinité, le rayon de miel, la cire cache à l'intérieur de ces petites alvéoles, la cire va cacher le miel. Donc, au début, on voit que l'alvéole, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Il faut racler avec un couteau les opercules de ces alvéoles pour que le miel puisse apparaître. De la même façon, notre Seigneur Jésus-Christ montre son humanité et cache sa divinité. Il a caché son divinité très nettement pendant sa passion, mais avec sa résurrection, sa divinité va apparaître au regard de tous. Ces aliments ont aussi une autre signification mystérieuse. En mangeant un morceau de ce poisson grillé, il veut nous représenter qu'il a été purifié par le feu de sa divinité, notre nature qui nageait dans la mer de cette vie. Le poisson nage dans la mer, c'est le symbole du monde dans lequel nous sommes obligés de vivre. Notre Seigneur a aussi desséché l'humidité qu'elle avait contractée au milieu de ses eaux profondes. et qu'il en a fait ainsi une nourriture divine, que d'un aliment abominable, il est devenu une nourriture des plus agréables à Dieu, ce que figure le rayon de miel. Donc, encore une fois, donc, c'est pour cette poisson rôti, ce rayon de miel représente le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption et le mystère de la Sainte Trinité. Poisson rôti, passion, rayon de miel, résurrection. Donc, rayon de miel qui nous rappelle la divinité qui permet la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Autre très belle image des pères, j'aime beaucoup cette phrase au milieu de la page 31. Le poisson grillé est la figure de la vie active qui consume notre humilité par le feu du travail, tandis que la contemplation se trouve représentée par le rayon de miel à cause de la douceur ineffable de la parole de Dieu. Donc, le poisson grillé, c'est le principe de la vie purgative, la vie illuminative, alors que la douceur du miel représente la vie unitive, la vie mystique. Donc au début, il faut passer par les mortifications de la chair, par les mortifications de la passion, les souffrances de la passion, avant de pouvoir jouir du rayon de miel, c'est-à-dire avant de pouvoir jouir de la douceur ineffable de la parole de Dieu et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu, comme un feu nouveau et inapprochable par l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union entre l'humanité et la divinité et notre Seigneur, dessécha l'humidité dans laquelle la nature humaine, comme un poisson, à cause de son incontinence, fut immergée, libérée par le mélange avec sa passion, et devint une nourriture divine, car le salut des hommes est la nourriture de Dieu. Et c'est très beau ces images, j'aime beaucoup ces images des pères. Voyez. Nous, on lit ce texte, ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti à rayon miel. Bon, ben d'accord, bon, il a voulu manger pour prouver sa résurrection. Mais attention, le poisson représente quelque chose, le rayon miel représente quelque chose, le poisson représente les souffrances de la passion, le rayon miel représente la douceur de la résurrection, la douceur de la vie contemplative, alors que le poisson rôti représente les souffrances de la vie active. Voyez. Alors avançons avec les versets 45 à 49 du chapitre 24. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, c'est ainsi qu'il est écrit, c'est ainsi qu'il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts le troisième jour. Et qu'on prêcha en son nom la pénitence et la rémission des péchés dans toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Or, vous êtes témoin de ces choses, et moi, je vais envoyer en vous le don promis par mon Père. Mais demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Dieu annonce à ce moment-là, ici, l'arrivée du Paraclet, le Saint-Esprit. Les apôtres ont encore une fois bien fait. Donc, ils leur demandent de se préparer. Demeurez dans la ville, préparez-vous. Et les apôtres vont faire une retraite de 10 jours. Entre l'ascension, notre Seigneur Jésus-Christ, 40 jours après Pâques, et la fête de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, 10 jours après l'Ascension. Être baptisé au nom du Christ, disent les pères, être baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est donc être baptisé en la mort de Jésus-Christ. En effet, de même qu'il est ressuscité 3 jours après sa mort, de même nous sommes plongés 3 fois dans l'eau. Et nous en sortons en recevant les arts de l'esprit d'incorruptibilité. C'est à cause de ce symbole que le prêtre, quand il baptise un bébé, va verser l'eau baptismale sur le front du bébé 3 fois. Je te baptise au nom du Père, il verse une première fois, et du Fils, une deuxième fois, et du Saint-Esprit, une troisième fois, en faisant chaque fois un signe de croix. C'est la même chose avec le sacrement de confirmation. Donc l'évêque qui confirme va confirmer en marquant de la tête, c'est-à-dire le symbole, le lieu de l'intelligence, avec le Saint-Crème, de son doigt, son pouce, il va marquer de la croix le corps et en fait l'âme du confirmé. Ajoutons que le nom de Jésus-Christ comprend en lui-même et le Père qui donne l'onction et le Saint-Esprit qui est l'onction même et le Fils qui a reçu cette onction dans sa nature humaine. Le genre humain ne devait plus être divisé en 2 peuples, les juifs et les gentils, et c'est pour réunir tous les hommes en un seul peuple qu'il ordonne à ses apôtres de commencer la prédication par Jérusalem et de la terminer par les nations. Dans toutes les nations, commençant par Jérusalem. C'est le verset 47. Qu'on prêcha donc en son nom la pénitence et la rémission du péché dans toutes les nations, commençant par Jérusalem. D'abord les juifs, et ensuite pour les convertir les juifs qui voulaient bien se convertir, et ensuite envoyer les apôtres à la conquête du monde entier. Saint Jean Chrysostome, page 32. Mais pourquoi l'Esprit Saint ne descendit-il pas sur les apôtres pendant que le Sauveur était encore sur la terre, ou aussitôt qu'il l'eût quitté? Eh bien, il voulait, dit Saint Jean Chrysostome, leur faire désirer ardemment cette grâce afin de la leur accorder. Car lorsque la nécessité nous presse, c'est lorsque la nécessité nous presse que nous empressons de recourir à Dieu. Il fallait auparavant que notre nature fît son entrée dans le ciel et que notre alliance avec Dieu fût consommée. C'est alors que l'Esprit Saint devait descendre et répandre dans notre âme une joie pure et sans mélange. Donc notre Seigneur a voulu que les apôtres languissent un peu plus et donc vont suivre, c'est la tradition qui dit, une retraite vraisemblablement prêchée par la Sainte Vierge, qui était là avec les saintes femmes, avec quelques disciples. Il y avait vraisemblablement une centaine de personnes qui ont fait cette retraite ensemble entre l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au jour de la Pentecôte pendant 10 jours. Le Seigneur a donné 2 fois l'Esprit Saint à ses apôtres après sa résurrection. La première fois sur la terre pour leur inspirer l'amour du prochain, la seconde du haut du ciel pour allumer dans leur cœur l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu va être tel que les apôtres vont retrouver une foi vive, vont perdre toute peur. On le voit très bien au moment où le Saint-Esprit descend sous la forme d'une langue de feu sur les apôtres. Qu'est-ce qui va se passer? Les apôtres vont tout de suite, Saint-Pierre va ouvrir les volets. Ils avaient tout fermé tous les volets dans la chambre haute à Jérusalem par peur des Juifs. Et Saint-Pierre va ouvrir les volets et donner son premier sermon. Il y aura tout de suite des milliers de baptisés, des milliers de convertis. C'est le début de l'Église. Donc les apôtres vont maintenant commencer à prêcher à Jérusalem, puis ensuite dans le monde entier. La synagogue était florissante, et l'Église a dans cette ville son origine, car la vieille institution juive est transformée en Église catholique par la prédication du Christ. L'Église catholique se substitue à l'Église de l'Ancien Testament, selon ces mots du prophète, « De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole du Seigneur. Levez-vous, brillez, car votre lumière est arrivée. » Le Christ, avec toute la bénédiction qu'il venait d'accorder, fut promis aux Juifs par les prophètes, et Jérusalem était leur capitale. David et Salomon y avaient régné, et le Christ, le Fils de Dieu, est venu pour restaurer le royaume, mais dans un sens plus haut et plus spirituel. Donc pour bien montrer que notre Seigneur Jésus-Christ est d'abord venu pour les Juifs, il demande à ses apôtres de commencer à prêcher à Jérusalem. C'est un verset très important. Commencez par Jérusalem, verset 47. Vous allez prêcher la pénitence, vous allez prêcher la rémission des péchés dans toutes les nations, et vous commencez d'abord par Jérusalem. Puis vous partirez, c'est toute la prédication des apôtres à l'extérieur, et de Saint Paul qui va passer en Grèce et dans le monde entier. Dernier verset de l'Évangile selon Saint Luc, donc je vous garde un peu plus longtemps cette fois-ci, je m'excuse, mais je voudrais terminer les commentaires de l'Évangile selon Saint Luc. Chapitre 24, verset 50 à 53. Puis Jésus les conduisit dehors vers Béthanie, ayant levé les yeux, il les bénit. Et il arriva, tandis qu'il les bénissait, qu'il se sépara d'eux, et il était enlevé au ciel. C'est l'ascension. Et eux, l'ayant adoré, revinrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient sans cesse dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Donc là, ici, on voit très bien que dans ce texte, Saint-Luc, qui est incomplet, on ne parle pas directement de la Pentecôte. On verra ça dans les textes, d'autres textes sacrés, entre autres dans les... je me souviens, ils sont exacts, dans les actes des apôtres qui vont compléter les évangiles, qui racontent beaucoup de choses qui ne sont pas dans les évangiles. Alors, expliquons rapidement avec les derniers commentaires des pères, en bas de la page 32, Saint Bède le Vénérable dit que Saint Luc ne dit absolument rien de tout ce qui se passa entre le Seigneur et les apôtres pendant 43 jours. Et il enjoignit, et il joint sans intermédiaire au premier jour de la résurrection, le dernier où Jésus quitta sa terre pour remonter au ciel. 43 jours, c'est les 40 jours entre la résurrection et l'ascension, plus les 3 jours de la mort de notre Seigneur. Ensuite, il les amena hors de la ville jusqu'à Béthanie. Béthanie, c'était le lieu où habitaient Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine et Saint Lazare. Ce fut d'abord à cause du nom de ce village qui signifie « maison d'obéissance ». Car celui qui est descendu sur la terre pour expier la désobéissance des méchants est remonté aux cieux pour récompenser l'obéissance des bons. Ce fut encore à cause de la position de ce village, sens symbolique, de Béthanie. Les conduisit dehors vers Béthanie, verset 50. Village situé sur le versant de la montagne des Oliviers, parce qu'en effet la maison de l'Église, modèle d'obéissance, a placé sur le versant de la montagne céleste, c'est-à-dire le Jésus-Christ, les fondements de sa foi, son espérance et de sa charité. Donc sur le versant de la montagne des Oliviers, montagne des Oliviers, c'est le lieu du début de la passion, le lieu de l'agonie. Pour bien montrer que l'Église se fonde sur les souffrances de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Autre texte ici que j'ai mis en conclusion, remarquez enfin que parmi les 4 animaux symboliques, Saint Luc est désigné sous l'emblème du taureau, parce qu'il était la victime prescrite par la consécration des prêtres, parce qu'il a eu pour but d'exposer plus au long que les autres sacerdoces de Jésus-Christ, et qu'après avoir commencé son évangile par le récit des fonctions sacerdotales que Zacharie exerçait dans le temple, il le termine en rapportant les pratiques de religion auxquelles les apôtres se livraient dans le temple. Vous voyez, il commence par le temps, finit dans le temple. Vous voyez. Donc Saint Luc est symbolisé par le taureau, Saint Jean par l'aigle, Saint Marc par le lion et Saint Matthieu par l'homme. J'ai déjà expliqué tout ça, je n'y reviens pas. Donc Jésus nous montre ces futurs ministres de sacerdoce nouveau qui ne versent plus le sang des victimes et ne cessent de louer et de bénir Dieu. Et c'est dans ce lieu même de la prière, au milieu des pieux exercices de la religion, qu'ils préparent leur cœur à recevoir l'Esprit Saint qui leur a été promis. Donc la préparation après l'ascension, donc, qui est annoncée ici, et il est enlevé au ciel, mais plus qu'annoncée, elle est mentionnée ici au verset 51, il arriva, tandis qu'il les bénissait, qu'il se sépara d'eux, et était enlevé au ciel. Et ensuite, il va y avoir 10 jours de plus, puis la descente des Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte sur les apôtres, et enfin, l'envoi des apôtres, allez, bénissez, prêchez, baptisez. Celui qui sera sauvé, qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le Christ alla à Béthanie pour dire au revoir donc à Lazare, à ses sœurs, les prendre avec lui au mont des Oliviers pour qu'ils soient les témoins de son ascension, partage son triomphe. Donc beaucoup de pères pensent que parmi les gens qui ont assisté à l'ascension et qui ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, il y avait Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe et Saint-Lazare. Voilà, je vais arrêter là. C'était un peu rapide aujourd'hui, mais je voulais terminer. C'était plus simple pour moi de terminer aujourd'hui pour qu'il y ait une séparation dans les fichiers entre les différents évangiles. Donc, nous avons terminé, grâce à Dieu, les trois premiers évangiles, donc les synoptiques. Donc il y a, je pense, 193 conférences pour expliquer donc les trois premiers évangiles. Et nous commencerons, si Dieu veut, la prochaine fois, l'explication d'évangile selon Saint Jean, parce qu'il va nous prendre beaucoup de temps. Donc je ne serais pas étonné s'il y a en tout peut-être 260 ou entre 260 et 300 conférences d'exégèse. Il y a beaucoup de travail pour les faire, mais aussi beaucoup de travail pour vous, pour les écouter, les travailler. Je conseille beaucoup, encore une fois, pour ceux qui ont écouté, qui ont la patience de m'écouter pendant tous ces commentaires sur Saint-Luc, de relire l'évangile de Saint-Luc et aussi de relire les commentaires des pères tout polycopiés. Les 24 chapitres de Saint-Luc. Nous allons terminer par une prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.